OK, nous sommes de retour à notre émission. On va parler de la grippe AH1N1. Il y a 10 ans, on voyait apparaître les premiers cas et on comprend que par la suite, c'est devenu un enjeu donc mondial parce que l'Organisation mondiale de la santé avait déclaré évidemment par la suite qu'on faisait face à une pandémie. Alors, qu'en est-il arrivé? Est-ce que ça a été vraiment une pandémie? Est-ce qu'on a eu lieu d'être inquiet ou pas? Finalement, on va en parler aussi avec ce qui s'est passé chez nous en Gaspésie avec la docteure Ariane Courville. Elle est médecin en santé publique, voilà, et en médecine préventive à la santé publique pour la Gaspésie et les Îles. Bonjour, docteur Ariane Courville.
Bonjour, Monsieur O'Leary.
Oui, alors, on était au tout début de cette grippe-là, il y a 10 ans, les premiers cas qui étaient apparus au Mexique. Si on peut faire un petit retour en arrière pour parler après ça de la situation chez nous, comment ça s'est passé, mais c'est vraiment là que ça a débuté.
Oui, tout à fait. Puis, au Mexique, les premiers signes qui sont apparus inquiétants, c'était que les personnes qui étaient gravement touchées par cette grippe-là n'étaient pas parmi les personnes les plus fragiles. On comptait, entre autres, des jeunes en bonne santé, mais qui présentaient des complications importantes. Donc, ça a été le premier signe qui nous a dit qu'il y avait quelque chose qui se passait là. Et évidemment, par la suite, il y a eu des tests et on a pu mettre en évidence que c'était une grippe AH1N1 qui était particulière, qui était nouvelle et qui combinait finalement une grippe porcine, une grippe aviaire et une grippe humaine. Et à partir de ce moment-là, en voyant le portrait qui se dessinait au Mexique, c'est là que l'Organisation mondiale de la santé a dit « Oh, attention, on fait face à une pandémie ».
Parce que vous dites H1N1, c'était pas nouveau comme ce virus-là, H1N1 était connu, sauf qu'il était modifié, c'est ça?
Avant qu'il y ait cette pandémie-là de grippe H1N1, il y avait des virus de type H1N1 qui circulaient déjà. Par contre, des fois, il y a des changements majeurs qui arrivent, ce qu'on appelle une cassure. Et là, dans ces cas-là, ça a été une recombinaison, si on veut, de virus différents qui, là, souvent, et quand on met ce virus-là dans une population qui est naïve au niveau immunitaire, donc qui n'a jamais rencontré ce virus-là, eh bien là, ça peut provoquer une pandémie puisque la population n'a pas de... n'est pas immunisé.
Parce que l'Organisation mondiale de la santé a finalement conclu qu'on faisait face à une pandémie. Est-ce qu'on a eu raison aujourd'hui, 10 ans plus tard, de dire que c'était vraiment une pandémie, qu'il y avait des risques importants? Parce qu'en bout de piste, à la fin, on semblait dire que finalement, cette grippe-là, bien, il y a eu moins de morts qu'une grippe normale saisonnière.
Bien, ça s'apparentait finalement à une grippe saisonnière, mais ça, on ne pouvait pas le dire au moment où la pandémie a été déclarée, puis avec le portrait qui était devant nos yeux. Et quand on est dans le domaine du biologique, hein, parce que là, on parle de virus, on sait qu'il y a toujours des incertitudes aussi. Comment est-ce que ce virus-là va se comporter? Et les statistiques au départ au Mexique nous inquiétaient. Et quand on regarde, c'était peut-être une grippe qui ressemblait finalement peut-être aux autres. Mais ce qui était remarquable, puis ce qui est remarquable dans les statistiques de cette année-là, c'est qu'effectivement, la morbidité était importante. Donc, les gens avaient des complications à un âge auquel on n'est pas habitué. En fait, les décès de cette grippe-là en 2009-2010, c'était 37 ans la médiane. Donc, c'est quand même très jeune. Et le risque de séjour aux soins intensifs a été 5 fois plus élevé chez les 20 à 49 ans que chez les 50 ans et plus. C'est très inhabituel comme présentation. C'est vrai que ces personnes-là avaient souvent des conditions médicales qui pouvaient les mettre plus à risque de complications, mais reste que c'est pas habituel que des gens de 20 à 49 ans se retrouvent aux soins intensifs 5 fois plus que des gens de 50 ans et plus. Donc, il y avait vraiment quelque chose de particulier.
Le portrait chez nous, à la fin de tout ça, est-ce que ça collait avec ce que vous venez de nous dire?
J'ai pas les statistiques sur l'âge des personnes qui ont été hospitalisées ou qui en sont décédées, mais on a 46 cas qui ont été hospitalisés dans la région et on a 2 décès. On a dénombré au total 197 cas positifs. Donc là, je viens de donner beaucoup de chiffres en rafale, mais en gros, ce que ça veut dire, c'est qu'à peu près 23 % des personnes qui avaient un résultat positif pour cette grippe-là étaient hospitalisées, ce qui est quand même beaucoup. 23 %, c'était pas quand même tout à fait banal.
Par rapport à une grippe saisonnière normale?
Bien, j'ai pas les statistiques pour une grippe saisonnière normale parce que ce n'est pas une maladie à déclaration obligatoire.
Ah, voilà.
Donc,
okay.
Cette année-là, oui, ça l'était en quelque sorte. On devait entrer ces cas-là, puis faire un suivi sur est-ce qu'ils ont été hospitalisés, est-ce qu'ils ont eu des complications, est-ce qu'ils en sont décédés. Mais dans une saison normale de grippe, on n'a pas ces statistiques-là, malheureusement.
Chez nous, santé publique de notre région, est-ce que ça a permis de tester justement le plan qu'on avait en place, là?
Oui, bon, c'est ça. On avait un bon plan d'écrit. C'est un plan qui était très détaillé et ça découlait aussi d'un plan qui était provincial. Donc, tout ça était en cohérence. Et il y avait même des plans locaux, donc dans chacun des hôpitaux, parce qu'à l'époque, on n'était pas des grands CIS, c'était encore des C3S. Donc, chacun des C3S avait aussi son plan. Donc, ça nous a permis, oui, de le mettre à l'épreuve. Mais rapidement, quand c'est devenu une pandémie mondiale, ce qui est arrivé, c'est que la coordination s'est faite au niveau provincial, par le provincial. Donc, nos plans, oui, on les a appliqués, puis on était prêts à faire face à la situation. Mais à partir du moment où la situation s'est compliquée un peu, tout était dicté par le ministre et le directeur national de santé publique. Et oui, je pense qu'on était très bien préparés. Et on a pu réagir rapidement. Mais après coup, là, en y repensant, peut-être que nos plans provinciaux, mais notre plan régional était probablement un petit peu trop détaillé. Puis, on avait tenu compte du pire des scénarios possibles, une grippe aviaire qui serait transmissible de personne à personne et qui aurait un fort taux de létalité. Donc, c'est vrai qu'on avait beaucoup de choses là-dedans qui étaient qui nous conduisaient à faire des interventions importantes, mais qu'on n'a pas appliquées parce que, évidemment, on était dans une grippe qui avait moins de conséquences qu'une grippe aviaire.
La question qu'on se pose aussi, parce que là, bon, de l'extérieur, la population, il y avait des craintes, il y avait même un mouvement de panique à un moment donné. Dans les médias, c'était tous les jours, puis bon, on faisait des bilans. Mais comment on a vécu ça à l'intérieur du système, vous? Est-ce qu'il y avait des craintes? Est-ce qu'on était un peu tendu, stressé? Est-ce que c'était la panique ou comment est-ce qu'on vivait ça à l'interne?
Non, il n'y avait pas de panique. C'est notre rôle d'être prêt à affronter les épidémies. C'est notre rôle, un de nos rôles, en fait, de la santé publique, de surveiller, de voir venir ces choses-là et d'être prêt à réagir. Donc, ce n'était pas la panique. La difficulté, par contre, c'était l'incertitude autour du virus. Puis, quand ça arrive, ces choses-là, c'est que l'information nous vient tranquillement, hein? On surveille qu'est-ce qui se passe ailleurs, qu'est-ce qui se passe au Canada, qu'est-ce qui se passe au Québec, dans notre région. Et puis, avec l'information qu'il y a, il y a des décisions à prendre quotidiennement. C'est pour ça que les communications, dans ce temps-là, s'intensifient à tous les niveaux, auprès de la population, mais aussi entre le provincial, puis le régional, puis entre tout le monde, finalement. Et même ici, à l'interne, ce que ça a fait, c'est qu'on a mobilisé beaucoup de gens qui n'étaient pas nécessairement dans ces dossiers-là de maladies infectieuses, mais qui sont venus prêter main forte à l'équipe pour pouvoir continuer à faire plus de surveillance, pour pouvoir mettre sur pied des cliniques massives aussi de vaccination, parce qu'il y a eu beaucoup de vaccination. Donc, c'est surtout ça la difficulté, c'est d'avoir peu d'informations, d'être obligé de prendre des décisions. Puis c'est aussi que ça entraîne beaucoup, beaucoup de travail, donc on est obligé de mobiliser des gens autour.
Est-ce qu'on a vacciné beaucoup de gens en Gaspésie? Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus?
Oui, je n'ai pas les chiffres exacts, mais autour de 70 % de la population qui a été vaccinée. On se rappelle que c'était un vaccin qui était distribué et puis que tout le monde était invité à se faire vacciner. Donc, toute la population est invitée, puis on en rejoint à peu près 70 % de la population. C'est des chiffres qui sont similaires, je pense, partout au Québec.
Et est-ce que ce 70 % à l'époque, ça reflète à peu près le taux de vaccination qu'on voit dans une grippe saisonnière ou c'est plus?
C'était plus, parce qu'il faut se rappeler que la vaccination saisonnière n'est pas offerte à tout le monde. À cette époque-là, les critères étaient un peu différents, là, mais si on pense à aujourd'hui, c'est surtout les jeunes bébés, les personnes plus âgées, là, 75 ans et plus, les personnes qui ont des maladies chroniques, puis des personnes qui pourraient être en contact avec des gens à risque, et les femmes enceintes. Donc, en gros, c'est à peu près les groupes à qui on offre la vaccination présentement. Donc, c'est pas 100% de la population et on s'attend donc pas à avoir 100% de la population vaccinée à chaque année.
En terminant, deux petits points. Est-ce que on avait raison de s'inquiéter il y a 10 ans?
Bien, on avait raison de s'inquiéter, oui. Et on a bien fait d'agir comme on l'a fait. Je pense que si ça se présentait de la même façon aujourd'hui, en n'ayant pas cette expérience-là en main, on ferait la même chose.
Est-ce qu'on serait mieux on va être mieux préparé?
On serait probablement mieux préparé pour l'avoir vécu dans un passé assez récent, effectivement.
Et est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faudrait améliorer 10 ans plus tard, quand vous avez vu ça, tout ce qui s'est passé sur le terrain chez nous, par rapport à la Gaspésie, qui est un grand territoire, je pense aux cliniques de vaccination ou tout ça, de rejoindre le plus de monde possible, est-ce que c'est une caractéristique qui était plus difficile, mettons, qu'en ville?
Je ne crois pas parce qu'on a toujours la préoccupation de rendre disponible. C'est vrai que c'est pas toujours au coin de la rue. On s'entend, mais de couvrir l'ensemble du territoire, on évite de faire une grosse clinique par réseau local de services, par exemple, faire une clinique à Gaspé seulement, puis faire déplacer les gens. Donc, on fait des cliniques qui sont parfois un peu plus petites, mais qui couvrent d'autres villes puis d'autres pôles. Donc, je pense que c'est toujours une préoccupation qu'on a, puis qu'on avait aussi. Donc, non, je ne crois pas que c'est une difficulté particulière, mais effectivement, il y a des gens qui ont plus de difficultés à se déplacer, puis là, ça peut être un enjeu chez certaines personnes.
Bien, voilà pour ce retour dans le temps. 10 ans, donc, c'était les débuts de la grippe AH1N1, et on voulait refaire un peu le tour de ce point-là et comment on l'avait vécu chez nous avec la docteure Ariane Courville, médecin en santé publique, oui, et aussi médecin en prévention. Merci beaucoup.
Ben merci, c'était un grand plaisir.